France Info. France Info 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir. Une consultation pour éteindre la contestation. À la une des informés, Emmanuel Macron réunit ses ministres à l'Elysée pour mettre sur pied le grand débat national censé calmer la colère des gilets jaunes. Matignon, ce soir, renonce à renoncer aux aides annoncées par Édouard Philippe en novembre. Christophe Castaner, lui, tente d'éteindre un autre départ de feu. La colère des policiers avec une prime de 300 euros va-t-elle suffire à les faire rentrer dans le rang? Et pendant ce temps, les européennes se dessinent, la France insoumise et le Front National jouent la carte jeune pour leur tête de liste. Et les gilets jaunes vont-ils se lancer? L'aventure semble botter Francis Lalanne, vous le verrez. Macron, lui, pas assez écolo aux yeux de Duflot, c'est l'affaire du siècle. Quatre ONG, dont Greenpeace et Oxfam, menacent d'attaquer l'État français qu'elles jugent inactif face au changement climatique. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Notre partenaire des informés, journaliste politique au Figaro. Avec nous également, bonsoir, Éléonore Lassou.
Bonsoir.
Directrice générale du cabinet d'affaires publiques Rivington. À vos côtés, Hélène Hamel, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Hélène, associée de l'agence Plaid, spécialisée dans le conseil en communication stratégique. Et également invité, bonsoir, Jean-Daniel Lévy.
Bonsoir.
Bienvenue, directeur départemental politique et opinion chez Harris Interactive. Nous sommes ensemble à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT jusqu'à 21h. Il devait participer au G7 à Biarritz au profit annulé, donc au profit d'une sorte de G20 hexagonal à l'Elysée. Emmanuel Macron, depuis 18h, réunit Édouard Philippe, une douzaine de ministres, des acteurs économiques ainsi que Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. Dans un courrier adressé à Édouard Philippe et révélé par France Info, s'est inquiété que ce grand débat que cette autorité indépendante est chargée d'organiser, eh bien, apparaisse comme que piloté par le gouvernement, ce qui a agacé Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, invité ce matin de Renaud Dely et Marc Fauvel sur France Info.
J'en ai ras-le-bol de cette suspicion généralisée. Voilà, il y a un moment, ça suffit. Il y a un grand débat qui est organisé, il faut que chacun soit à la hauteur de ce grand débat et n'instrumentalise pas une commission pour expliquer que ce serait organisé par l'État ou autre. Alors, c'est pas le cas. On veut quelque chose de transparent, on veut quelque chose d'ouvert, on veut quelque chose de foisonnant, d'innovant, de créatif. Et on sait que la Commission nationale du débat public, c'est la bonne instance, c'est la bonne commission pour nous dire « voilà comment on fait ».
Marion Mourgue, il est agacé, Benjamin Griveaux. Est-ce qu'il y a un risque que ce débat soit récupéré par le gouvernement ?
C'est surtout qu'il faut que le débat ait lieu. Et pour l'instant, on ne voit pas forcément comment il va se mettre en place. Ces derniers jours, on sent un certain bricolage pour une mise en place des mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron. La consultation doit se dessiner ce soir. Je ne suis même pas sûre que Chantal Jouanneau y soit, puisqu'il semble que la réunion ait pris une autre forme et donc elle ait décidé de ne pas y aller. Donc tout ça, on sent que c'est en train de se mettre en place, donc on n'est même pas au niveau de la récupération.
Oui, il y a une sorte de huis clos hein, qui entoure cette consultation dont on devrait connaître l'histoire un peu plus tard dans la soirée. Macron peut-il retrouver de l'oxygène avec cette affaire, Éléonore Lassou?
Je pense que, avant tout d'abord, il faut d'abord voir le contour en fait de cette concertation,
oui,
et notamment les modalités, la façon dont elle va être gérée. Mais c'est avant tout un atout, je pense, pour le président de pouvoir renouer le dialogue avec les Français, mais aussi de pouvoir lâcher un peu de laisse et de donner des rênes, notamment à une concertation qui devra être indépendante et écouter les enjeux et la voix qui a été portée, notamment par
les gilets
jaunes.
Donc vous dites que c'est utile, hein, c'est ça en fait? Oui.
Moi, je pense que c'est utile. Il y a eu un ras-le-bol qui a été exprimé. Je pense que le président l'a bien compris. Les élus l'ont compris. Les parlementaires aussi l'ont compris. Et la majorité, puisque la majorité a été assez chamboulé, notamment...
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Dans leur territoire, oui. Et ils en gardent un peu encore les cicatrices. Et donc, ils attendent des réponses fortes de la part du président Emmanuel Macron, mais aussi qu'on puisse justement aller vers une concertation. D'accord. Mais je pense que c'est un peu le renouveau, c'est un peu l'essence de ce que Emmanuel Macron avait voulu au tout début lors de sa campagne présidentielle, ouais. Le renouveau et l'écoute des territoires.
Hélène Hamel, vous êtes d'accord avec cet avis d'Éléonore Lassoux ? Est-ce qu'au fond, il y a une forme de déplacement d'ailleurs du débat, des ronds-points désormais, hop, c'est récupéré par le gouvernement ?
Je pense qu'au départ, la grande consultation, c'est une très bonne technique de sortie de gestion de crise. C'est-à-dire qu'il fallait annoncer quelque chose, que ça permet de retourner le problème en posant une question aux Français ou des questions aux Français. Ça permet au gouvernement de s'offrir du temps pour souffler. Et c'est aussi un moyen de canaliser la contestation. Donc c'est une technique de communication.
Vous dites technique,
assez simple,
quand même.
Oui,
hein.
Oui.
C'est
de gestion
truc,
de crise.
C'est un truc.
Non, mais c'est un truc. Enfin, on voit bien. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a l'impression, quand on voit le gouvernement, que c'est ça a été annoncé, bah faut qu'on le fasse. Et on sent qu'il y a quand même des pieds de plomb, que Marion le disait sur la gestion et sur l'organisation, c'est pas clair du tout. Il faut pas que ça traîne trop. Il faut qu'on rapidement cette semaine, on sache quelles vont être les modalités de cette consultation, parce que sinon, ça va créer encore de l'insatisfaction et du mécontentement.
Ouais. Alors on va voir dans un instant ce qu'on y met à l'intérieur. On connaît à peu près quelques thèmes génériques, mais tout d'abord, Daniel Lévy, les derniers sondages, il y a un Odoxa pour France Inter ce matin. Il donne une fois de plus l'exécutif, enfin Emmanuel Macron, Édouard Philippe en chute. 5 points de chute.
Oui, avec quand on regarde les traits d'image d'Emmanuel Macron, les traits d'image qui sont président des riches, arrogant, déconnecté des Français et trop autoritaire.
Toujours.
Oui, et toujours, et en plus croissant même au cours de la dernière période, et qui a participé d'ailleurs de l'éclosion du mouvement des Gilets jaunes. Et donc dans ce contexte-là, le fait de procéder à une consultation, si elle est perçue comme étant sincère, et si on est face à des Français qui pensent que non seulement leur parole va être écoutée, mais également elle va leur être rendue et qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises par la suite, permettrait potentiellement, si l'opération était bien réussie, de gommer ces traits d'image. Donc effectivement, il s'agit, comme c'était le cas à l'initiative et à l'initialisation du mouvement En Marche, de pouvoir dire « je suis un président qui n'est plus forcément aussi autoritaire, aussi déconnecté de la vie des Français, et aussi jupitérien que ce qui était un des reproches qui m'était effectué ». Ouais. L'opération n'est pas forcément évidente, mais en tout cas, on peut penser que c'est dans ce sens-là qu'elle s'organise.
Mais cette histoire-là n'est pas encore écrite. Les choses peuvent se retourner. On a vu dans le passé, sous d'autres présidences, des situations invraisemblables s'inverser. Hein.
Oui, alors sachant
là,
que là,
ça sera plus long,
on est quand même quasiment dès les débuts du mandat d'Emmanuel Macron face à ces traits d'image qui ont été des traits d'image qui ont été renforcés à travers la pratique du pouvoir d'un côté, les orientations politiques telles qu'elles ont été perçues de la part des Français de l'autre. Donc il faudrait qu'il y ait effectivement une vraie modification non seulement des orientations politiques mais également de la gestion du pouvoir de la part de l'exécutif.
Allez, on va parler des contours du débat dans un instant, mais tout d'abord 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous. Bonsoir Boris Allier.
La décision avait suscité une bronca. Vinci Autoroute renonce finalement à faire payer les automobilistes qui ont profité des opérations péage gratuit des Gilets jaunes. Vinci qui est reçu ce soir par la ministre des Transports avec d'autres sociétés, l'occasion de faire le point sur les dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Parmi les barrières de péage dégradées, celle de Bandol dans le Var la nuit dernière, elle restera fermée au moins jusqu'à demain, le temps de tout réparer. 17 personnes ont été interpellées après cet incendie. Le gouvernement fait marche arrière. Les mesures proposées au début du mouvement des Gilets jaunes seront bien maintenues. Parmi elles, l'extension du chèque énergie. Le gouvernement avait pourtant annoncé cet après-midi qu'elle serait abandonnée en raison du gel des taxes sur les carburants. Et puis les footballeurs d'Orléans espèrent bien être à la hauteur. Ce soir, le club de Ligue 2 reçoit le Paris Saint-Germain, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et le coup d'envoi, c'est à 21h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors ce débat, ces contours, les quatre thèmes retenus, déjà connus, sont la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et la citoyenneté, qui inclurait le thème de l'immigration. Ce débat fait déjà débat. Le chef de l'État l'avait évoqué dans son allocution il y a 8 jours. Est-ce le bon cadre pour l'aborder? Même pas peur, a dit Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, invité ce matin sur le plateau de Cyril Viguier sur Public Sénat.
Je n'ai absolument pas peur de parler d'immigration. Il faudrait être fou.
Mais alors pourquoi c'est pas un thème majeur?
Se dire que ce thème est un thème tabou. Il n'est absolument pas absent des débats, il n'est absolument pas absent des préoccupations même, qui peuvent être parfois exprimés par les Gilets jaunes.
Donc pourquoi
ce thème sera présent dans le débat quand nous allons parler de citoyenneté, de démocratie, nous parlerons aussi d'immigration.
Marion Moore, quel rapport avec les Gilets jaunes ?
Ça fait partie des préoccupations qui ont été aussi exprimées par certains Gilets jaunes, mais on a vu la semaine dernière que l'exécutif avait voulu le mettre en cinquième priorité de la consultation nationale, puis ça avait été retiré après le Conseil des ministres. Là, on voit que la majorité est quand même pas à l'aise, parce que cette question est dans le débat, elle fait partie des préoccupations des Français. Et donc, il y a la volonté d'en parler, mais sans en parler, en se disant « ça va cliver ». Donc, sur chaque sujet, on sent un gouvernement en ce moment qui est très en difficulté pour reprendre la main et être à l'initiative.
Hélène Hamel, le pacte de Marrakech de l'ONU, eh bien, ça a été un sujet de discussion fréquent hein, sur Facebook, sur Twitter, entre certains gilets jaunes.
Oui, et ça a été même, les réseaux sociaux sont un véritable défouloir. Et c'est intéressant ce qu'on sait de la réunion qui s'est tenue, du Conseil des ministres, c'est que a priori Bruno Le Maire a quand même émis des réserves en rappelant le débat qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale et l'immigration, qui avait été un véritable défouloir et dont on n'avait pas tiré finalement grand chose. Donc ce sont des questions risquées. Et c'est vrai que là, on s'attend peut-être quand même à avoir un défouloir comme on l'a vu au moment de l'histoire de Marrakech sur les réseaux sociaux. C'est quand même terrible, les commentaires.
Éléonore Lassoul, et les parlementaires, vous sont sensibles à cet aspect-là des choses, l'immigration, est-ce qu'ils sont plutôt frileux à l'égard de ce débat ?
C'est évidemment un sujet qui est clivant, mais il ne faut pas oublier en fait, la cause profonde de ce sujet. En fait, c'est une conséquence de la situation économique du pays. Pourquoi actuellement les Gilets jaunes portent ce sujet, l'immigration, et demandent à être écoutés sur ce sujet? C'est parce que ils ont une baisse de leur pouvoir d'achat, parce que les entreprises ont des problèmes de croissance, et donc le fond du problème, c'est de renouer avec la croissance, et c'est principalement plutôt, je pense, je me dirigerai plutôt vers la fiscalité. Et c'est pour ça, je pense, que ce sujet qui est un sujet clivant, on est d'accord, n'est pas la priorité à aborder tout de suite.
Mais il fait partie de l'ensemble.
Il va falloir, parce que c'est une préoccupation des Français, mais il faut aborder d'autres choses et revoir le modèle économique d'abord pour proposer d'autres choses ensuite.
Jean-Daniel Lévy, vous partagez le point de vue d'Éléonore Lassoul, sujet clivant, qui n'est pas le principal sujet de cette consultation, mais il est là, il est sur la table.
Hein. Il est sur la table, il est présent dans pratiquement toutes les conversations des Françaises et des Français dans le cadre du quotidien. Et quand on regarde une des conséquences politiques du mouvement des Gilets jaunes, même si ce n'était pas la question centrale, il y a indéniablement une croissance des intentions de vote dans le cadre des élections européennes en faveur de Marine Le Pen, et voire même en termes de code de confiance, un regain de la part de la formation politique d'extrême droite. Donc dans ce contexte-là, il y a deux solutions. Soit on dit que ça n'est pas un sujet, soit on dit c'est un sujet. Et si c'est un sujet, dans ce cas, il faut voir la manière dont on peut l'aborder. Ce qui est intéressant à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est que la question avait été abordée autour de la thématique de l'identité nationale.
Oui.
Et pas uniquement autour de l'immigration. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle peut-être qu'il y avait eu ce défouloir. Et il était porté par un ministre qui était profondément critiqué de la part de la gauche, Éric Besson, avec cette perception qu'il y avait eu une forme de trahison par rapport à ce qu'était l'histoire politique d'une partie de la gauche, et une orientation qui était une orientation très liée d'un point de vue négatif à l'immigration. On sait que c'est un sujet, on sait que les Français sont inquiets, on sait qu'il y a des interrogations, pas uniquement sur l'immigration, mais sur la capacité de la France à pouvoir avoir la maîtrise de son territoire. Donc c'est probablement un sujet qu'il faut aborder d'une manière ou d'une autre, mais en sachant là où on veut arriver. Et je ne sais pas si le gouvernement sait aujourd'hui où il veut arriver.
Alors Marion Mourgue, Jean-Daniel l'évoquait à l'instant, hein, Nicolas Sarkozy reçu il y a 10-11 jours à déjeuner, c'était un vendredi le 7 décembre exactement. À l'Élysée. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs chargé de le représenter dimanche à l'investiture de la nouvelle présidente géorgienne. Est-ce un hasard selon vous si Emmanuel Macron s'est emparé du sujet immigration, ou il l'a mis sur la table après ce rendez-vous, peut-être ils en ont discuté ? Qu'est-ce qu'on en sait d'ailleurs ?
Ils ont aussi beaucoup parlé des heures supplémentaires défiscalisées et de cette nécessité de remettre cette mesure dont on savait qu'elle était plébiscitée par les Français et dont on connaît l'application. Mais juste pour prolonger ce qui est dit, il y a quand même une thématique qu'on retrouve dans cette crise des Gilets jaunes et qui est une vraie inquiétude des Français, c'est un besoin et une demande de souveraineté. Et une inquiétude de ne plus avoir la maîtrise, qu'elle soit en économie, qu'elle soit en immigration, dans chaque problématique. Et c'est surtout ça qui est exprimé par les Gilets jaunes. Donc ne pas entendre que l'immigration fait aussi partie des préoccupations et qu'il y a une volonté des Français de comprendre ce qui se passe et d'avoir la main sur ce qui se passe, on le voit aussi avec les thématiques européennes, c'est une, peut-être une erreur qui coûtera cher au gouvernement
si
après.
Si je peux me permettre, la souveraineté, on la retrouve notamment par l'économie. C'est comme ça que les Français vont retrouver leur souveraineté, par l'économie.
Oui, mais ce n'est pas leur seule préoccupation, c'est-à-dire qu'ils veulent avancer sur plusieurs jambes en même temps, deux par définition. Mais,
il y en a deux maximum. Hein.
Mais y a ces, tout n'est pas lu qu'au travers de, du prisme économique et le pouvoir d'achat est une manière d'exprimer d'autres inquiétudes aussi.
Hélène Hamel, il y a aussi un autre sujet qui pourrait faire partie des sujets, hein, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne réclamé, on le sait, par les Gilets jaunes. Ça aussi, il faut que ce soit mis sur la table, il faut que ça avance. C'est partie des négociations qui sont, selon vous, devant nous, là.
C'est un terrain quand même très glissant. Et on sait qu'a priori, Emmanuel Macron n'est pas du tout pour ce référendum d'initiative.
Ah, il n'en veut pas.
Non, il n'en veut pas. Donc,
pas tellement.
Non, je crois pas. Et après, ça dépend de la conception qu'on a de la démocratie. Et c'est vrai que la démocratie directe peut faire peur. Quand vous lisez quand même certains penseurs politiques qui ont fait des tribunes récentes, c'est pas forcément la démocratie dont on rêve. Donc, est-ce que cet outil est un outil efficace ou un outil de démagogie? La question se pose.
Jean-Daniel Lévy, il n'en veut pas, mais c'est, en fait, c'est plutôt pas n'importe quelle condition. C'est ce qui a été dit. Enfin, vous traduisez par il n'en veut pas. Quoi,
non, je pense que le Premier ministre en veut. Enfin. Oui. À certaines conditions, mais je pense quand même que non.
Si ça devait être mis en place, on sait qu'il y a des conditions qui sont des conditions plus ou moins draconiennes pour qu'ils puissent parler. Donc après, ça va être quel nombre de signataires préalablement, est-ce qu'il faut qu'il puisse y avoir des députés, des sénateurs qui s'en emparent, etc. Donc on sait que ça n'existe pas en tant que tel. Donc les règles fixeront en fait la possibilité de pouvoir saisir ou pas de manière assez fréquente les citoyens sur des sujets dont ils vont s'emparer spontanément. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'on est dans un contexte, et je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'au cours des dernières élections législatives, il y a moins d'un Français sur deux qui s'est déplacé au premier tour pour aller voter et moins de 43% qui se sont déplacés au deuxième tour des élections législatives. Et donc, il y a cette ambiance un peu générale aujourd'hui qui existe dans la société française en demandant est-ce que ceux qui ont vocation à être la représentation nationale nous représentent véritablement. Et avec un scrutin majoritaire qui accentue un mouvement, 36% des votes en faveur de la République en marche, près de 400 députés au final. Donc dans ce contexte-là, un doute qui existe et des Français qui disent comment pouvons-nous faire pour nous faire entendre et ce RIC, entre guillemets, apparaissant comme étant une solution parmi d'autres.
Marion Mourgue, un dernier mot sur le RIC.
Bah, encore faut-il savoir justement comment on le définit. Oui. Est-ce qu'il est législatif? Est-ce qu'il est révocatoire? Est-ce qu'il permet d'agir sur la Constitution? Et il y a énormément de demandes de RIC
les Gilets jaunes
très
veulent
différents.
Tout. Les Gilets jaunes veulent tout.
Allez, Hélène Hamel qui dit quoi? Les Gilets jaunes veulent tout.
Ils veulent tout.
Allez, 20h20.
Sur le référendum.
En tous les cas, que de mystère ce soir, 20h20 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Le gouvernement tente d'apaiser la fronde des policiers. L'intersyndicale est reçue au ministère de l'Intérieur ce soir et le gouvernement propose une prime de 300 euros aux forces de l'ordre mobilisées face aux Gilets jaunes. Les syndicats Alliance et UNSA Police appellent à un service minimum dans les commissariats aujourd'hui et demain. Emmanuel Macron lui réunit ses ministres en vue du grand débat national censé calmer la colère des Gilets jaunes. Une concertation de 3 mois qui doit débuter dans les prochains jours dans les mairies avec 4 grands thèmes. La force de l'espace de Donald Trump se concrétise. Le président américain ordonne au Pentagone de créer un nouveau commandement militaire consacré aux activités spatiales. C'est désormais au Congrès américain de valider son financement. Qui pour remplacer José Mourinho? Le célèbre entraîneur portugais a été démis de ses fonctions par Manchester United. Il fait les frais des mauvais résultats enregistrés par les coéquipiers de Paul Pogba. Un entraîneur par intérim sera désigné jusqu'à la fin de la saison, précise le club. Et puis à suivre en ce moment cette rencontre de Ligue 1 de football entre Caen et Toulouse, un partout à la mi-temps.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Boris Allier l'évoquait à l'instant, ces gilets bleus dont les représentants syndicaux sont reçus par le ministre de l'Intérieur Place Beauvau vont-ils mettre leur menace à exécution, c'est-à-dire la, grosso modo la fermeture des commissariats demain? Les policiers sont en colère et Christophe Castaner a dégainé sa prime à 300 euros. On l'écoute.
Vous savez très bien qu'ils ne bloqueront pas les commissariats parce qu'ils ont le sens du service public. Je peux vous dire que je ne suis pas inquiet sur ce sujet, mais par contre, il y a un mot d'ordre, une mobilisation qui fait état de vraies difficultés. Personne n'a pensé qu'on achetait une colère avec de l'argent, ni le président. Par contre, qu'on rémunère une action exceptionnelle, un engagement exceptionnel, oui.
Voilà, Christophe Castaner, la prime devrait bénéficier à 111 000 fonctionnaires de police, coût total 33 millions d'euros. Ça va suffire, ça, Marion Mourgue? Une prime?
Je suis pas sûre que ça suffise parce que au-delà de la revendication des heures supplémentaires payées, et c'est vrai qu'elles sont conséquentes et que les forces de l'ordre ont été très sollicitées, il y a une demande de considération des forces de l'ordre qui sont appelées à différentes tâches et de plus en plus fréquentes, mais qui sont parfois appelées à des tâches qui ne sont pas les leurs, notamment de garder de manière très fixe un bâtiment. Bon, ils sont pas en principe faits pour ça. Donc c'est vraiment une sorte de demande, de cri du cœur des forces de l'ordre. Est-ce que cette prime suffira? Pas sûr.
Parce qu'en fait, il y a 275 millions d'euros d'heures sup qui sont c'est en souffrance. Hélène Arlassou, un amendement a été déposé dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2020. Là, aujourd'hui, ça va vite maintenant. Il suffit de craque 5 minutes et on dépense des millions.
Effectivement, alors l'amendement qui a été déposé, je pense que c'est pour aussi donner un geste en faveur de ces policiers. Toutefois, je pense pas que ça suffira à apaiser leur colère. Mais là, le problème, c'est que le ministre est dans une position assez compliquée, puisqu'en fait, il hérite d'une situation. C'est comme on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, on hérite d'un système économique.
Vous faites bien de le rappeler, parce que je vous coupe la parole, pardonnez-moi. Il l'a dit, Christophe Castaner, que ce retard remonte à des dizaines d'années, je le lis, je le cite. C'est un chantier que je veux ouvrir, ça confirme ce que vous dites à l'instant.
Et je pense notamment dans les consultations et les concertations qui vont venir, ça peut participer aussi de renforcer ces concertations sur la manière d'allouer les budgets de l'État, notamment les crédits qu'on alloue à la défense, à la sécurité. C'est des choses dont il va falloir parler ouvertement.
Hélène Hamel, vu que les millions valsent aujourd'hui, peut-être il eût été plus simple de débourser directement 275 millions d'euros et régler la facture une bonne fois pour toutes.
Alors c'est une facture, comme on dit, qui est héritée de plusieurs années. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la récupération politique d'Éric Ciotti qui donne des leçons à Emmanuel Macron. Et on se demande ce que finalement les Républicains ont fait pendant toutes ces années sur la police. Moi, juste, je reviendrai sur une chose. Je trouve que l'expression « gilet bleu », elle est totalement inadaptée en communication. C'est une sorte d'artifice de communication. Je ne sais pas d'où vient.
Alors écoutez, je l'ai utilisé,
mais je suis pas sûr qu'elle existe. Non, mais je pense qu'en fait, ce sont les médias peut-être qui ont parlé de gilet bleu. Mais alors, je trouve que pour le coup, c'est un mouvement très organisé. On voit bien que c'est les syndicats de police qui ont des revendications très clair sur la revalorisation des heures de nuit, le doublement des heures de formation, le paiement des heures supplémentaires. Donc on n'est vraiment pas du tout dans les codes des gilets jaunes. Donc moi, en matière de communication, je trouvais que l'expression
les
gilets
policiers,
bleus,
les gendarmes, voilà.
Voilà. Non, parce qu'en tout cas, c'est un mouvement de revendication syndicale totalement classique, avec en plus dans un timing qui est à mon avis le bon, parce qu'ils sont dans un rapport de force où ils peuvent demander plus au ministre, étant donné qu'ils sortent de ce mouvement des gilets jaunes qui a été compliqué et qu'en ce moment il y a toutes les négociations au Parlement. Donc ça, c'est intéressant qu'ils le fassent maintenant.
Daniel Lévy, vous êtes d'accord avec Hélène Hamel, il faut changer de vocabulaire déjà, mais ces policiers, ces gendarmes, bien souvent sur le terrain, qui faisaient face aux manifestants dits des gilets jaunes, avaient quelque chose en commun, hein, les salaires, les fins de mois difficiles finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue d'opinion, il n'y a pas d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre les gilets jaunes. On pouvait avoir des Français qui d'un côté soutenaient les gilets jaunes et en même temps avaient un très grand respect aujourd'hui pour les forces républicaines et les forces de police. Donc on a pu voir que tous les débats qui ont pu émerger, ceux qui ont été portés, c'est-à-dire des violences policières potentielles, des arrestations préventives, l'utilisation ou le recours soit à des bombes lacrymogènes, soit à d'autres modalités pour calmer entre guillemets les manifestants, n'ont pas eu de prise d'un point de vue général de la part des Français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le sentiment que les moyens qui ont été déployés par l'État ont été surdimensionnés par rapport à la nature revendicative. Et depuis longtemps, nous sommes face à des Françaises et des Français qui considèrent que globalement, la police est une police républicaine, tient bien son rôle et a un rôle qu'elle considère comme étant plutôt positif. Donc c'est pas l'affrontement d'un côté des bleus ou des jaunes, ou des gilets bleus d'un côté ou des gilets jaunes de l'autre.
C'est bien de le préciser. Marion Mourgue, une dernière question. Vinci Autoroute qui renonce à réclamer aux automobilistes le paiement des péages donc impayés pendant les opérations de gilets jaunes, sage décision.
Plutôt sage décision en termes de communication, parce que là, si vous voulez être sûr d'avoir une communication très négative pour une entreprise, c'était le mauvais timing, mauvais moment, et ça peut pas être compris par ceux qui ont participé au mouvement des gilets jaunes ou qui l'ont subi. Donc c'était quand même très mauvais. Mais je reviens juste sur ce que vous disiez sur Christophe Castaner quand il dit qu'il ouvre le débat des heures supplémentaires. On a l'impression qu'il le subit quand même. C'est parce qu'il a senti qu'il y avait un mouvement de contestation qui était en train de naître et qui avait potentiellement des blocages dans les commissariats à un moment très compliqué. que le gouvernement cède.
On a la sensation que ce gouvernement, Marion Moore, encore un mot avant la pause, hein, au fond court après l'actualité, hein, depuis quelques temps. Hein. On va y venir après,
parce qu'on
va
évoquer les mesures. Mais là, on sent une accélération de couacs, de bricolage et de mauvaise gestion des différents dossiers qui, on n'était pas habitués, en tout cas.
Voilà, vous venez de lancer, sans le savoir, hein, la deuxième partie des Informés de France Info. Ce sera dans un instant, dans quelques minutes, après le rappel de la météo et après les informations. À tout à l'heure.
Mon gars Tokyo à la grande halle de la Villette avec France Info. De Godzilla au récent blockbuster Your Name, comment Tokyo a inspiré les personnages et les histoires de manga, de films d'animation et de jeux vidéo. À travers une maquette géante de la mégalopole, des dessins, des clips, des photos, l'exposition propose un voyage dans l'environnement urbain tokyoïte, épicentre de la pop culture. Une exposition inédite dans le cadre de Japonisme 2018. Manga Tokyo à la Villette, jusqu'au 30 décembre, en partenariat avec France Info.
Les sports sont sur France Info.
Et c'est fait pour les Bleus. Elles seront championnes d'Europe un an après le titre mondial que vous avez gagné, Blandine.
Et les Bleus, encore un arrêt de Nîmes.
Et les Bleus, deux, un,
c'est fini.
Pour l'info, 24h sur 24.
Elles sont championnes d'Europe.
France Info, deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
La météo, le rappel des prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
La perturbation intéressant l'ouest du pays ce soir va se décaler lentement vers l'est la nuit prochaine. Nous allons la retrouver demain le long des frontières de l'est avec des pluies parfois soutenues en région PACA et de la neige sur le massif alpin à partir de 1300 mètres d'altitude. Partout ailleurs, votre journée sera rythmée par une alternance d'éclaircies et de cumulus porteurs d'averses. Ces averses prendront un caractère orageux du Poitou-Charentes à la Gironde. Seuls le Languedoc-Roussillon et la Corse seront épargnés et profiteront de belles éclaircies. Les minimales au lever du jour seront comprise entre 5 et 10 degrés, excepté vers l'extrême nord-est où le mercure affichera 0 degré. La douceur restera d'actualité avec des maximales évoluant de 7 à 11 degrés dans la moitié nord. Comptez 9 à 16 degrés pour la moitié sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. Le gouvernement belge s'effrite, n'a plus de Premier ministre ce soir. Charles Michel a démissionné après le dépôt d'une motion de défiance devant le Parlement déposée par les socialistes et les écologistes. La semaine dernière, le parti nationaliste flamand avait retiré ses ministres de la coalition au pouvoir en Belgique après la signature par Charles Michel du pacte de l'ONU sur les migrations. Devant le tollé général, le groupe Vinci renonce finalement à faire payer les automobilistes qui ont profité des opérations péage gratuites organisées par les Gilets jaunes. Le groupe Vinci a fait par ailleurs état de plusieurs millions d'euros de dégâts sur ses infrastructures lors de ce mouvement. Hier à Bandol dans le Var et près de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, des cabines, des barrières ont été détruites. Une vingtaine de personnes placées en garde à vue. Le péage de Bandol est d'ailleurs toujours fermé dans les deux sens de circulation. Et sur place, les Gilets jaunes ne condamnent pas les dégradations, c'est même tout le contraire. Christelle Marquez.
Preuve en est l'attention sur place vis-à-vis des journalistes, clairement pas les bienvenus au premier abord. Puis finalement, les menaces et les insultes passées, certains se calment et acceptent d'évoquer les dégradations.
Non, je condamne pas et je comprends. Au bout d'un moment, on est pris pour des cons. Voilà, on peut être plus cons qu'eux. Malheureusement, s'il faut agir, on va agir.
Et l'avertissement est clair. Ce qui s'est passé à Bandol, ça n'est qu'un début et ça pourrait bien faire tache d'huile.
Je pense qu'il va y avoir d'autres actions en France entière parce qu'on déloge tous les ronds-points à partir d'aujourd'hui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se radicaliser?
Si Vinci ne laisse pas tomber, c'est dire sur le péage pour les automobilistes. C'est qu'un début, là, je pense, et ça va se durcir. Donc il y a quand même des grosses choses à faire. Et si M. Macron veut entendre des gilets jaunes, que ça aille très vite. Pas 3 mois, 6 mois, il faut que ça aille très vite.
Pas question de toute façon de lâcher le péage. Dès que l'autre sera remis en état, on y retournera, lâche un gilet jaune. On n'en a pas fini avec Macron, résume un autre.
Le mouvement, il faiblit pas, on est tous là et on va continuer à être là encore. Il n'y a rien qui bouge et ça ne s'arrêtera pas maintenant.
On n'est pas dehors depuis le 17 novembre pour des miettes. Mais plus le temps passe, conclut une manifestante, plus on va devenir méchant.
Un reportage de Christelle Marquès. Alors que les principales mesures annoncées pour tenter de calmer la fronde seront présentées demain en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée et enfin au Sénat, l'exécutif doit faire face à la grogne des policiers, des forces de l'ordre épuisées par des semaines de mobilisation. Le ministre de l'Intérieur a promis de leur verser une prime exceptionnelle de 300 euros. Elle devrait bénéficier à plus de 110 000 fonctionnaires. Par ailleurs, le ministre a promis de s'occuper de régler la question des millions d'heures supplémentaires en souffrance. Du football ce soir, la Coupe de la Ligue. Le PSG se déplace à Orléans. Et puis, Caen reçoit Toulouse en match en retard de la 18e journée de Ligue 1. À la pause, les deux équipes sont à égalité. Un partout. 20h33, la deuxième partie des informés. Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Les informer, la suite avec nos quatre invités. Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, avec Éléonore Lassou, directrice générale du cabinet d'affaires publiques Rivington, avec Hélène Hamel, associée de l'agence Plaid, spécialisée dans le conseil en communication stratégique, avec Jean-Daniel Lévy, directeur département politique et opinion chez Harris Interactive. Alors, les choses vont vite, tout va si vite, tout va même presque trop vite. Matignon, ce soir, vient de renoncer, suivez bien, renoncer à l'abandon des aides annoncées en novembre, vous suivez toujours, à savoir l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires, c'est ce que disait Édouard Philippe, hein. Le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs, c'était une économie budgétaire de 130 millions d'euros à peu près, eh bien Matignon voulait y renoncer, puis Matignon, Marion Mourgue, renonce à renoncer, on essaie de comprendre.
C'est pas simple, en effet. Matignon annonce qu'il va renoncer à ces mesures annoncées par le Premier ministre.
C'est presque du Raymond DeVos. Hein.
Exactement, ouais. Sans le faire exprès. Mais justifie en tout cas ce renoncement en disant on n'en a plus besoin puisqu'on a annulé la hausse sur la taxe des carburants, donc plus besoin. Mais à ce moment-là, il y a une sorte de polémique qui est en train de naître en disant mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Ils annoncent quelque chose et puis ils reviennent dessus, tout ça pour économiser 130 millions d'euros au moment où on a dépensé 10 milliards d'euros. Donc on n'est plus à ça près. Et je pense que cette polémique qui est née sur les réseaux sociaux, qui est née avec les articles, a fait reculer Matignon parce que là, c'était ingérable en termes de communication. Et vous êtes sûr que les Gilets jaunes redescendent samedi prochain pour manifester.
Hélène Hamel, ça s'est passé en quelques heures, hein, cette histoire. On a pris ce recul et puis soudain, on change.
C'est le problème de l'accélération du temps aussi avec les réseaux sociaux. Ça va très vite, ça se répand comme une tache d'huile. Et là, effectivement, c'est quand même un gros cafouillage de communication. Enfin, c'est-à-dire qu'annoncer quelque chose, le retirer, et puis finalement renoncer, ça devient un peu gaguesque. Donc oui, c'est compliqué en matière de communication.
Alors, je vais vous faire encore réagir autour de la table. Rassurez-vous, vous reviendrez là-dessus également. Il y a un autre renoncement qui est dans l'air, c'est celui des 3% de Bruxelles. Et oui, 10 milliards d'euros dépensés en 2019, ou du moins des rentrées fiscales qui ne se feront pas. La France va atteindre le 3,2%. Mauvais élève, pas de problème. Il n'est même pas question de sanctions, a affirmé ce matin Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL.
Non, il n'est pas question de ça. Arrêtons de toujours raisonner sanctions quand on pense Bruxelles. C'est la meilleure façon de faire détester l'Europe et c'est vraiment pas la façon dont je conçois les choses. Un dépassement au-delà de 3%, puisque c'est le seuil magique, qui d'ailleurs est une limite, qui ne doit pas être une cible. La France sera, en 2019, le seul pays à être au-dessus de 3%. Il faut le savoir. Ce seuil-là peut être dépassé. Ce sont les règles qu'ils disent, à condition que ce soit de façon limitée, de façon temporaire, de façon exceptionnelle.
Jean-Daniel Lévy, il y avait ces annonces de Matignon aujourd'hui, renoncement, il y a les 3%, renoncement, tout le monde renonce. Finalement, la politique de l'offre, c'est fini.
Ou en tout cas, il y avait une des martingales d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui ne tient plus véritablement. On le voit avec un président qui disait « lorsque je décide, les choses se passent par la suite et j'ai la maîtrise complète. J'ai la maîtrise de l'économie, j'ai la maîtrise de mon gouvernement, j'ai la maîtrise en fait du tempo que je peux être de nature à pouvoir embrayer. On a vu déjà, avec le départ déjà de Nicolas Hulot, avec le départ de Gérard Collomb, qu'au sein du gouvernement, ça ne tenait pas aussi bien que ce qu'il laissait entrevoir, avec parfois une critique aussi bien sur le fond politique que sur la gestion personnalisée de la part du président de la République. On a vu au cours de l'été des Français qui commençaient à douter en disant on avait cru comprendre que derrière la politique volontaire, notamment à la suite de la réforme de la loi travail, qu'il y aurait des orientations et des conséquences positives. Les Français disaient, sur le front de l'emploi, sur le front de la croissance, sur le front des inégalités sociales et sur le front du pouvoir d'achat, ça n'est pas tout à fait à la hauteur de nos attentes. Et au cours de la période récente, une allocution présidentielle et par la suite, effectivement, une difficulté de la part du gouvernement à pouvoir mettre en place ce qui a été indiqué de manière solennelle de la part du président de la République. Ce qui faisait sa force initialement constitue aujourd'hui une de ses zones de faiblesse d'un point de vue d'opinion.
Alors pour prolonger ce que vous dites, Jean-Daniel Lévy, avec vous, Éléonore Lassoux, malgré tout, le président parle et puis il faut que la machine, l'intendance suive, si je puis dire. On a un scénario qui est déjà écrit, hein, c'est demain le Conseil des ministres, aidez-moi. Exactement. Et puis l'Assemblée nationale, comment ça marche ?
Un projet de loi qui va être présenté donc à l'Assemblée nationale, qui reprend notamment ces mesures. Il y a 3-4 articles qui visent à modifier la loi et pouvoir introduire ces mesures.
Parce qu'en fait, il faut modifier le projet de loi de finances.
Code de la sécurité sociale, notamment.
En l'occurrence, c'est la commission des affaires sociales.
Le projet de loi de finances a été voté, la mesure a été votée la semaine dernière pour permettre justement la modification du projet du code de la sécurité sociale.
Mais vous dites que ça va trop vite, ou pas ?
Bah, ça va trop vite, mais le président, en même temps, est obligé de tenir ce rythme pour faire voter ce projet de loi avant la fin de l'année, pour que ces mesures puissent être mises en place à partir de janvier. Toutefois, là, on a un projet qui va être présenté à l'Assemblée et aux sénateurs également, devant les sénateurs vendredi. J'ai des sénateurs qui nous ont dit que le gouvernement les avait invités à voter l'intégralité de ces mesures.
Il pourrait y avoir des oppositions, non, au Sénat ?
L'opposition, notamment socialiste, c'est probable qu'elle ne vote pas ces mesures et s'en remettra du coup au retour de ce texte à l'Assemblée nationale. On sait que le gouvernement a une majorité qui le soutient et qui votera texte.
Ouais. Hélène Hamel, tout ça s'accélère et, comme le disait Jean-Daniel Lévy tout à l'heure, au fond, la marque Macron est en train de muter, de se transformer. On est dans quelque chose de moins vertical aujourd'hui, hein.
Oui,
il faut s'adapter, quoi, c'est ça.
Oui, il faut s'adapter. Ben, la grande concertation des Français est une manière de s'adapter et faire plus d'horizontal. Mais c'était quand même l'ADN et l'origine du projet et du projet d'En Marche.
Vous pensez qu'on change d'ADN aujourd'hui? Non.
Non, je ne pense pas. Mais il y a peut-être eu un fonctionnement un pouvoir qui s'est pratiqué de manière trop jupitérienne au début. Mais revenons à l'ADN du mouvement. Au départ, il y avait cette volonté de prendre le pouls sur le terrain, de faire la grande marche, d'aller chercher, de mobiliser les Français. Et peut-être qu'effectivement, ils ont perdu de vue cet état d'esprit du début.
Marion Bourg, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? On revient un petit peu à l'esprit initial des marcheurs ?
Bien sûr, parce que même les cahiers de doléances, finalement, existaient déjà pendant la campagne, et c'est de ces thématique qui était née un certain nombre de réformes ensuite. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'une déconnexion du pouvoir depuis un an et demi et il n'arrive plus à sentir ce qui se passe sur le terrain, ni les Français.
Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
300 € pour calmer la fronde des policiers. Voilà la prime proposée par Christophe Castaner aux forces de l'ordre engagées face aux gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur reçoit l'intersyndicale ce soir. Alliance et l'UNSA Police appelés au service minimum dans les commissariats aujourd'hui et demain. Les mesures annoncées au début du mouvement des gilets jaunes seront bien mises en œuvre. Parmi elles, l'extension du chèque énergie ou le doublement de la prime à la conversion. C'est ce qu'assure le gouvernement ce soir après avoir annoncé dans un premier temps leur annulation. Une discussion avec les parlementaires de la majorité semble avoir fait changer d'avis. Matignon. Une lourde amende de 300 000 € et un an de prison avec sursis. L'ex-député Alain Marceau, condamné pour avoir rémunéré sa fille en tant que collaboratrice parlementaire, un emploi fictif. L'ancien élu de la Haute-Vienne est également condamné à 3 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Et puis l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, Laura Smet et David Hallyday obtiennent en partie gain de cause. La justice gèle 37% des revenus revenus tirés des ventes d'albums, ils en demandaient le double, une nouvelle étape dans le conflit qui les oppose à Laetitia Hallyday.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, et à l'instant, le Premier ministre belge Charles Michels annonce sa démission. Il va la présenter au roi de Belgique, sans doute la suite de la crise avec le départ des parlementaires flamands. Donc, crise en Belgique et démission du Premier ministre Charles Michels. Nous y reviendrons tout à l'heure sur France Info. Alors, des gilets jaunes aux élections européennes, il n'y a qu'un pas. La crise mêle désormais, on l'a vu, pouvoir d'achat et lutte contre le dérèglement climatique. Les gilets jaunes, mouvement populaire sans porte-parole, peuvent-ils présenter une liste concrète au scrutin du mois de juin? L'aventure, en tous les cas, séduit le chanteur, l'artiste Francis Lalanne.
La seule chose que moi j'ai voulu faire, c'est créer un moyen pour le peuple de faire valoir sa revendication sur le plan institutionnel. Ce que nous allons faire avant tout pendant ces élections européennes, c'est compter nos forces, savoir combien nous sommes dans ce pays à vouloir que ça change. C'est ça que nous allons faire, tout simplement. Et c'est pour ça que nous allons présenter des candidats. C'est pour que les Français puissent voter pour le peuple.
Jean-Daniel Lévy, les Italiens avec le mouvement 5 étoiles avaient Beppe Grillo. Peut-être que Francis Lalanne pourrait occuper un poste prépondérant dans une campagne supposément européenne des Gilets jaunes.
Il n'avait pas la même assise et la même notoriété, la même image que M. Lalanne.
Mais il faut des incarnations.
Voilà. De manière générale, il faut une incarnation. Il faut aussi savoir pourquoi on y va. Hein, et qu'en général, les Français ne vont pas uniquement voter à travers un vote qui pourrait être un vote défouloir, mais aussi autour de à quoi ça sert d'envoyer des députés dans une enceinte qui est une enceinte parlementaire, notamment parlementaire européenne. Donc ça sera un des enjeux probablement des Gilets jaunes. Il y a un aspect aussi qui est peu souligné, c'est qu'il y a un enjeu économique. C'est que présenter une liste européenne, c'est à minima 800 000 euros qu'il faut arriver à disposer pour pouvoir ne serait-ce que imprimer les bulletins de vote. Donc il y a cette petite forme de ségrégation, sachant qu'on est remboursé uniquement à partir de 3% des voix recueillies, ouais, et que les banques ne vont pas forcément toujours proposer un prêt à l'égard des listes, qui sont des listes pour lesquelles il n'y a pas la certitude que celle-ci obtiendrait 3%. Donc dans le cas des intentions de vote aujourd'hui, il y a une promesse qui est effectuée.
Un pari financier risqué, quoi.
Il y a un pari financier risqué et un pari électoral également risqué.
Marion Mourgue, pourtant, cette supposée liste gilet jaune, je crois que c'est Ipsos, hein, Jean-Denis Lévy, je me tourne vers vous, parlait de 12% potentiel qui prendrait d'ailleurs au Rassemblement National et dans une moindre mesure à la France Insoumise. Oui. Vous y croyez, vous?
Et vous avez dit aussi le terme potentiel, c'est-à-dire qu'on a vu les gilets jaunes dans une difficulté, presque une incapacité à se structurer avec des porte-parole, passer d'un mouvement social à une organisation politique et avec une expression politique, c'est pas la même chose. Mmh. Alors oui, sur le papier, ça fait 12% aux européennes et ça prend plutôt aux extrêmes. Donc on sent que ça peut être encouragé par le gouvernement parce que ça peut être utile électoralement, mais on n'y est pas encore.
Oui, Hélène Hamel, sur cette thématique d'une liste éventuelle des Gilets jaunes, est-ce que ça ferait sens, selon vous, après ce qui s'est produit pendant un mois?
Pour l'instant, on peut être un petit peu sceptique. Oui, ça ferait sûrement sens, mais a priori, il y a deux listes potentielles. Ensuite, Francis Lalanne a fait une conférence de presse qui n'a pas eu une portée non plus énorme. Alors oui, il y avait 10 journalistes à la conférence de presse.
C'est une façon d'appuyer le sujet, hein,
oui,
je vous rassure.
Oui, non, mais c'est important d'en parler parce qu'il
n'y a pas de porte-parole.
En fait, il n'est pas allé sur le fond, il n'y a pas de porte-parole. Et il y avait un article très intéressant la semaine dernière de Pierre-Rosan Vallon dans Le Monde qui expliquait que le mouvement n'arrive pas à se structurer, que passer d'une révolte sociale à un mouvement social, ça demande une structuration et qu'aujourd'hui, le mouvement n'est pas en capacité de le faire. Ils ne veulent pas de leader. Le programme est quand même un programme fourre-tout. Donc on peut se poser la question de leur succès aux européennes qui ont quand même lieu fin mai. Il va falloir qu'ils s'organisent assez rapidement.
Éléonore Lassou, vous partagez ce point de vue, vous qui fréquentez régulièrement la classe politique, c'est un peu compliqué de monter ex nihilo comme ça une liste, même si il y a quand même pas mal de revendications déjà sur la table.
Oui, mais c'est des revendications qui sont assez différentes quand même. C'est un mouvement qui est protéiforme et on va voir s'il arrive à se structurer dans les prochains mois ou si justement il arrive à se doter d'un leader reconnu et auquel cas, alors à ce moment-là, ça pourrait marcher. Pour le moment, permettez-moi d'en douter, notamment quand je vois la façon dont les Gilets jaunes ont traité les soi-disant représentants qui venaient rencontrer notamment à Matignon ou à l'Élysée. les
vous
politiques.
Vous y verriez une contradiction, grosso modo.
Je trouve qu'il y avait beaucoup d'agressivité. Je ne pense pas que la démocratie, ça soit l'agressivité. Donc, quand on voit qu'il y a eu des menaces de mort proférées, je pense que l'essence de la démocratie, c'est un débat apaisé. En parallèle, il faudra voir aussi les sujets qui vont être portés par les différents partis aussi.
Alors pendant ce temps, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon font le choix chacun de son côté, hein, de la jeunesse façon Emmanuel Macron, si je puis dire. Le Rassemblement National est bien pourrait sélectionner Jordan Bardella, le chef des jeunes RN et pour la France Insoumise, en tête de liste, hein, et pour la France Insoumise, c'est déjà fait, ce sera Manon Aubry, ex-membre de l'ONG Oxfam, invité ce matin de Léa Salamé sur France Inter, on l'écoute.
On nous a volé l'idée d'Europe. Donc le plan A, c'est renégocier tous ensemble et tenir les promesses de l'Europe, de cette Europe sociale qui lutte contre le dumping fiscal, qui lutte contre l'évasion fiscale notamment, et c'est l'Europe du progrès. Si ça ne marche pas et qu'on n'arrive pas à renégocier tous ensemble, le plan B, ça veut dire instaurer un rapport de force pour renégocier les traités. Mais on sait très bien que l'Union européenne ne se fera pas sans la France.
Elle est déjà rodée, cette Manon Aubry.
Elle est assez à l'aise. Oui. Mais il y a quand même un message qui a été exprimé en 2017, et donc c'est plutôt bien de l'entendre, c'est un besoin de renouvellement des têtes à tous les niveaux de la vie politique, et Emmanuel Macron en était l'incarnation. Donc que les partis aujourd'hui présentent de nouveaux candidats, justement assez jeunes, qu'on ne connaît pas bien pour les européennes, c'est aussi une manière d'intéresser les Français à cette
élection.
Ce n'est
pas un risque pour vous, c'est plutôt un atout.
Il y a un risque dans chaque décision, mais c'est pas mal aussi de faire confiance. Je veux dire, les équipes, elles restent là, les partis sont là, donc c'est pas non plus, ils sont pas jetés dans la nature comme ça.
Jean-Daniel Lévy, ces nouveaux visages, il faut saluer peut-être le renouvellement de la vie politique, la vie publique, c'est plutôt une bonne idée. C'était le cas de 2017. Est-ce que cela va attirer le public pour, si je puis dire, ou en tout cas les électeurs pour 2019, les européennes?
Bon. On est encore très loin des élections européennes. Hein. Voilà, et les Français ne nous en parlent pas. Quand on leur en parle, ils nous répondent gentiment, mais c'est pas leur sujet de préoccupation du quotidien. On a des taux de participation qui sont faibles et qui sont en baisse élection européenne après élection européenne. Donc je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Dans un même élan, il y a deux aspects que je trouve intéressants. Le premier aspect, c'est que je ne crois pas qu'il y ait eu véritablement de dégagisme en 2017, mais il y a eu plutôt une forme de remplacisme. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on veut mettre en place des personnes qui sont en situation pour lesquelles il peut y avoir une forme de confiance et pas uniquement de dire dehors les autres, parce que malgré tout, on est un pays qui attend et qui croit dans le politique. Et puis le deuxième aspect que je trouve encore plus intéressant, de la part des formations politiques d'extrême droite, ça a été un des points marquants. Un vote qui a été un vote important de la part de la jeunesse, non pas parce qu'il y avait des jeunes qui étaient présents, mais parce qu'il y avait des jeunes qui étaient présents qu'on ne présentait pas comme étant jeunes. C'est-à-dire qu'on disait, ce sont des personnes qui ont des responsabilités, ils sont objectivement jeunes, mais on n'a jamais fait la promotion du fait de leur jeunesse comme étant une forme d'argument marketing. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ni de la part du Rassemblement National, ni de la part de Jean-Luc Mélenchon, ils disent, on présente un jeune. Ce sont des jeunes, objectivement, mais qui ont, dans le cadre des prises de parole, le sentiment qu'ils ont un bagage, qu'ils ont des idées et que leur jeunesse n'est pas un argument, mais un fait en soi.
Alors, en tous les cas, je confirme, hein, nous sommes un peu loin des élections européennes, mais c'était l'occasion d'en parler avec la supposée liste possible des Gilets jaunes pour ce prochain scrutin. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
La décision était très mal passée. Vinci Autoroutes renonce finalement à faire payer les automobilistes qui avaient profité des opérations péage gratuit des Gilets jaunes. La société comptait leur envoyer la facture sans pour autant leur imposer une amende. Vinci, qui est reçu ce soir par la ministre des Transports avec d'autres sociétés, l'occasion de faire le point sur les dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Parmi les barrières de péage dégradées, celle de Bandol dans le Var la nuit dernière, eh bien elle restera fermée au moins jusqu'à demain, le temps de tout réparer. 17 personnes ont été interpellées après cet incendie. En Belgique, le Premier ministre démissionne. Charles Michel est confronté au dépôt d'une motion de défiance après la démission de ministre flamand. Le chef du gouvernement se rend chez le roi Philippe pour l'informer de sa décision. Et puis à suivre dans moins de 10 minutes, la première affiche des 8e de finale de la Coupe de la Ligue de football. Orléans, club de Ligue 2, reçoit les stars du Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi, c'est donc à 21h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'action de l'État est-elle insuffisante pour lutter contre le réchauffement climatique? Quelque chose me dit qu'autour de la table, vous avez déjà la réponse. Cécile Duflo et Audrey Pulvar, à savoir Oxfam France et la Fondation pour la Nature et l'Homme, ainsi que deux autres ONG, Greenpeace et l'association Notre Affaire à Tous, ont l'intention de porter plainte contre l'État pour son inaction climatique. L'opération s'intitule « L'affaire du siècle ». Un document en ce sens a été remis à Emmanuel Macron et le gouvernement dispose de 2 mois pour répondre. Cécile Duflo, la directrice générale d'Oxfam France, sur France Info ce matin.
On espère un procès, on espère gagner. C'est contraindre l'État. Puisqu'il n'y a que des paroles et pas d'actes, nous voulons utiliser la force juridique pour faire face à cet état d'urgence. Mmh. C'est pas chacun individuellement qui peut agir. On peut agir, bien sûr, mais on doit aussi mener des politiques globales qui bénéficieront à toute la population. Et c'est le sens de ce recours. C'est aussi un recours qui va être porté, j'en suis sûre, par des centaines de milliers de personnes pour dire maintenant, vous, responsables de notre avenir, vous devez agir.
Hélène Hamel, une ancienne ministre écologiste qui se retrouve de l'autre côté, hein, derrière la vitre, avec une association, une ONG qui attaque l'État. Qu'est-ce que ça vous dit ?
Elle est dans son rôle. C'est une activiste. Elle l'a toujours été sur les sujets environnementaux, donc ce n'est pas du tout étonnant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette action, elle fait vraiment écho à une tendance mondiale. Il y a plein d'actions qui sont menées sur le plan climatique contre les États. C'est le cas. Il y a des actions en cours aux États-Unis. Il y a eu l'État néerlandais qui a été condamné récemment. Et on avait eu l'année dernière une association qui avait attaqué pour la qualité de l'air. Et l'État, le Conseil d'État lui avait donné raison. Donc c'est efficace. L'action judiciaire est efficace. Ce qui est intéressant avec d'un point de vue de communicant avec les ONG, c'est qu'ils sont quand même très forts en communication. C'est des professionnels de communication, même dans leur mécanique. Alors c'est une mécanique assez classique, mais on le voit, vous le disiez, c'est le nom, c'est marketé, l'affaire du siècle, le logo, la pétition, 200 000 signataires,
oui,
les réseaux sociaux, la conférence
c'est
de presse, on fait fuiter la veille la lettre. Enfin, c'est incroyable pour nous. C'est vraiment des cas de communication où ils ont un impact, ils sont très forts, ils sont très écoutés, ils sont forts sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que en matière de communication, les ONG sont quand même des modèles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette opération, elle avait été lancée au départ par Notre Affaire à Tous, qui est une association qui a une faible notoriété, qui a été rejointe par Oxfam et Greenpeace, qui, grâce à leur notoriété,
donnent
beaucoup plus de puissance à cette action.
Éléonore Lassou, de voir Oxfam, en l'occurrence, il y en a 3 autres, monter ainsi au créneau, qu'est-ce que cela signifie selon vous? Ce sont les ONG qui mènent la danse, finalement?
Pas nouveau, en fait, puisque les ONG, qui sont également des représentants d'intérêts, hein, je le rappelle. D'ailleurs, on se demande pourquoi l'Oxfam n'est pas inscrite à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, puisqu'il mène des actions en permanence de représentation d'intérêts. Ce qui est certain, je pense que c'est le...
Qu'est-ce que vous voulez préciser?
Lobbying.
C'est du lobbying.
D'accord. Ça s'appelle du lobbying. Et je pense que
ça devrait être dit... C'est plus clair en anglais, hein, c'est pour ça.
Voilà, ça devrait être dit... puisqu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui ont des obligations de déclaration, mais l'Oxfam ne le fait pas. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je pense que le tournant écologique, ça sera pas l'affaire d'une année, comme le prétend madame l'ancienne ministre. C'est l'affaire d'un demi-siècle. C'est l'affaire d'un changement de mentalité. Et là, le président... je pense, a déjà dans le mandat essayé justement de mobiliser la France. On le voit quand on compare les actions du président par rapport aux actions des États-Unis. On ne peut pas dire que la France fait rien.
Mais il est reproché, Marion Hamburg, au chef de l'État, de s'être arrêté au Make Our Planet Great Again d'il y a un an et puis plus rien. C'est ce qui est dit, hein.
C'est ce qui est dit, notamment par Nicolas Hulot. Or, dans les 4 associations, il y a celle de Nicolas Hulot. Donc, il y a aussi une certaine continuité des reproches et dans le débat, puisque c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait mis cette thématique, non pas pendant la campagne, mais ensuite sur le devant de la scène, et que là, il y a des reproches en défaillance.
Ouais, Jean-Daniel Lévy, est-ce à dire que l'écologie politique est finalement plus efficace hors gouvernement et au sein d'associations, même si elles font du lobbying, hein?
Ça, c'est une question qui se pose depuis 1997 quasiment en France, avec l'arrivée notamment de Dominique Voynet au gouvernement de Lionel Jospin. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des marches qui ont été organisées, avec des mobilisations, avec, quand on regarde quantitativement, une part de population non négligeable qui s'est déplacé pour aller manifester et indiquer ses aspirations et ses attentes. L'écho médiatique a été quand même bien moindre que celui qui est donné depuis ce matin à la suite de la prise de parole de Cécile Duflo. Ce qui montre bien également que une mobilisation qui est quand même une implication physique plus importante et plus impliquante que le fait de signer une pétition qui va être une pétition en ligne n'a pas forcément aujourd'hui la même implication et les mêmes conséquences d'un point de vue de reprise médiatique et potentiellement de manière dont les gouvernants peuvent s'en emparer. Et puis, il y a également avec une modalité d'action où jusqu'à présent, en fait, la justice était un peu en dehors des types de mobilisation qui apparaît comme étant relativement nouvelle et plutôt importée des modèles anglo-saxons.
C'est ça. Hélène Hamel, vous voulez préciser une chose?
Je rajouterais ce qui est intéressant, c'est le choix du timing parce qu'on est au lendemain d'une COP24 qui a été très décevante. Donc, je pense qu'ils veulent frapper fort aussi. Et puis, surtout aussi dire que l'ouverture de la consultation citoyenne, je pense que sur les sujets environnementaux, ça va être aussi très risqué pour toutes ces associations. Là, le Conseil économique, social et environnemental a ouvert une plateforme. Et parmi quand même les propositions qui sortent, enfin les premières parmi les internautes, c'est de supprimer les subventions à l'éolien. Donc ça nous pose vraiment la question. On va consulter les Français et on va voir que l'écologie ne sera pas forcément parmi leurs premières préoccupations.
Vous voulez dire qu'elle n'a plus la cote, Éléonore Lassou, vous êtes d'accord avec ça ?
Je ne pense pas que l'écologie n'ait plus la cote, mais je pense qu'il faut un changement des mentalités et il faut faire comprendre, il faut de la pédagogie. Et c'est là le rôle des politiques. C'est de donner un axe clair. Les Français, je pense, enfin en tout cas le mouvement des Gilets jaunes ont exprimé une colère. Et je pense que le président les a entendus et...
Allez, nous verrons bien tout ça. On a du temps avec toutes ces histoires de gilets jaunes, de débats. On en a pour quelques mois avec vous, Marion Mourgue, la une du Figaro demain.
La réforme du bac, pour changer un peu.
Ah, mais voilà un bon sujet. Allez, merci Marion Mourgue, merci à vous, Éléonore Lassou, Hélène Hamel et Jean-Daniel Lévy d'avoir participé à cette édition des Informés de France Info. Pour ma part, je vous retrouve demain soir avec beaucoup de plaisir. Bonne soirée.